Moi, je prends le bon du au cachet oriental. J'ai réduit totalement ces questions.
Moi, c'est de vous remercier au cachet oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. La RDC a gagné 11 places dans le rapport du PNUD sur l'indice de développement humain pour l'année 2015. Elle est passée de la 186e place sur le 187 pays en 2013 à la 176e sur 188 pays en 2014. Le PNUD, le gouvernement congolais, attribue cette performance à la publication des bons résultats obtenus par le pays ces dernières années, notamment en 2014 sur l'espérance de vie et la santé. Le PNUD salue la progression de la RDC et l'invite à combattre les taux de chômage élevés, surtout en milieu de jeunes et des femmes, qui est à la base du taux élevé de pauvreté dans le pays. Selon vous, quels sont les préalables pour arriver à lutter efficacement contre la pauvreté? Rejoignez-nous au 081-899-6315 pour intervenir en direct. Et les débats sont aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Ce magazine est mis en onde par Paul Badenema, Julie Pesa en assure la gestion du standard et la réalisation. Et Piro et la Mégie vous le présentent sous la supervision de Julien Yamouni Fidel. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-899-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero et Amégie.
Il a été toujours, et on a toujours dit que le jeune congolais vit avec moins d'un dollar par jour, cela veut dire sous le seuil de la pauvreté, alors que le congolais occupe un pays potentiellement riche. Comment arriver à inverser la tendance et arriver à donner aux congolais la richesse et lutter contre la pauvreté? C'est la question au centre de notre échange. Nous avons associé à cette émission Ricardo Kanyama, qui est directeur de l'International Success Training Center, centre des coachings financiers, c'est dans les domaines de l'entrepreneuriat. Monsieur Kanyama, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour Stéphane et auditeurs de la Radio de la Paix.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Le Congo, un pays potentiellement riche, mais depuis plusieurs années, on nous chante qu'un Congolais vit sous le seuil de la pauvreté avec moins d'un dollar par jour. Comment on peut faire ce paradoxe quand même entre la richesse, la potentialité et la pauvreté criante?
Ok, c'est parce qu'on distingue deux types de richesses. Nous avons donc les richesses en fonction des ressources naturelles. Mm-hmm. À ce terme de Congo, c'est un scandale géologique, comme on dit. Mais il y a aussi la richesse en termes de la population. Donc, notre pays, et la richesse d'un pays ne dépend pas seulement des richesses du sous-sol, mais ça dépend aussi de la richesse de sa population. Et notre population, c'est une population qui souffre de la pauvreté anthropologique. Et un peuple qui n'est pas capable de produire des richesses, quelles que soient les richesses du sous-sol, peut vivre la situation que nous sommes en train de vivre.
Et quand on dit que c'est une pauvreté anthropologique, ça veut dire qu'ils sont pauvreté entretenue, créée, ou ils viennent de l'ignorance?
Non, ça veut dire que la population est ignorante en matière de production, de gestion et de création de richesses. C'est ça le vrai problème. Mm-hmm. Oui, et notre population n'a jamais été préparée à la création, gestion et production de richesses. Si je vais vous montrer un peu par les tableaux, vous allez voir de 1960 à 1985, les gens qui ont eu le temps d'étudier en ce moment-là avaient la facilité de trouver des emplois et avoir une bonne vie. Mais vous voyez que les enfants que nous sommes aujourd'hui, et la grande majorité ne sont pas capables d'atteindre les niveaux de succès qu'avaient atteint leurs parents. C'est parce que dans notre système éducatif, on n'a jamais préparé l'homme congolais à créer la richesse, à vivre avec la richesse. Le système prépare seulement la jeunesse à chercher l'emploi. Et on ne lui dit pas comment vivre avec son argent et comment faire à partir des revenus qu'il a pour sortir de la pauvreté et devenir riche. Donc notre pauvreté, c'est une pauvreté due à l'ignorance, parce que l'ignorance est grande et la pauvreté n'est rien d'autre que la conséquence de l'ignorance d'un peuple en matière de richesse.
Et quand on dit que c'est une question de l'ignorance, est-ce que c'est l'ignorance en termes de population qui sont dirigées, ou cette ignorance en termes de création des richesses, elle va de ceux qui dirigent, ceux qui doivent canaliser les énergies, à ceux qui doivent consommer ce qui est produit par les dirigeants?
à deux niveaux, parce que notre population aussi est dirigée par nous-mêmes. Ça veut dire que cette ignorance est à tous les niveaux. Même ceux qui nous dirigent, ils ne savent vraiment pas ce qu'il faut faire pour créer des richesses.
Mm-hmm.
Et je donne toujours un exemple que vous voyez. Nous sommes dirigés par les cadres qui ont été formés par nos universités. Mais il est démontré que très peu des universitaires ont créé des richesses. Donc très peu ont produit des richesses et ont permis à leurs enfants aujourd'hui de ne plus chercher un emploi, par exemple. Alors, eux, ils ne connaissent pas comment il faut faire. Comme ils ne connaissent pas la solution, ils essayent de se battre, mais donc c'est des deux côtés. Ensuite, pas seulement les dirigeants, mais il n'y a personne pour préparer la population sur les richesses. Parce qu'une personne doit être formée dans un domaine. C'est comme si on n'a jamais formé des chirurgiens et puis on demande aux gens on construit des hôpitaux pour opérer les gens. Ce n'est pas possible, etc. Donc, parce que cette population, dans notre système éducatif, j'ai étudié notre système éducatif de 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce système éducatif ne peut pas permettre à quelqu'un de réussir sur les plans financiers. Parce qu'on ne lui dit pas. Je ne sais même pas, on peut faire des études, on n'a jamais eu un cours sur l'éducation financière, on n'a jamais eu un cours sur la création des richesses, on n'a jamais eu un cours sur comment réussir après l'université. Donc les universités forment la jeunesse et on abandonne la jeunesse à la nature. La jeunesse se bat, celui qui parvient à trouver un emploi trouve, celui qui et même s'il trouve un emploi, il va travailler toute la vie et il va forcément se retrouver dans la pauvreté après son temps utile de production. Donc c'est à cause de ces vides que cette génération a laissé que nous pensons vraiment que pour renverser la situation, on doit absolument former la population à la création de richesses. Je vais vous expliquer par des exemples. Vous voyez, un État, quoi qu'on le dise, n'est pas capable de rendre toute la population riche. Vous savez que nous sommes près de 70 millions d'habitants. Imaginez que l'État doit distribuer $1 par jour à chaque Congolais. Donc, il faut distribuer 70 millions de dollars par jour, n'est-ce pas? Ce qui ferait des milliards et des milliards. Parce que c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais si on apprend à la population la création des richesses, ce que moi j'écris haut et fort, parce que l'un des problèmes, parce que notre population ne connaissant pas ce qu'il faut faire, cette population n'économise pas. C'est une population consommatrice. Et une population qui ne dépense que pour la consommation immédiate. Alors imaginez qu'une population comme ça, si elle est éduquée financièrement et qu'il parvient à économiser au moins $1 par jour, ça veut dire que nos banques se retrouveront avec 70 millions de dollars par jour. Et vous vous imaginez combien de millions par mois et combien de millions en une année, combien de millions en 5 ans. Donc tous ces jours là-bas, il faut que notre population passe d'une population consommatrice à une population créatrice.
Mais on peut économiser ce qu'on a quand on regarde la part quand même de l'État dans ce qui est octroyé comme salaire, on peut le dire. C'est pas quand même tout le monde qui a la possibilité d'avoir un salaire qui puisse aussi lui permettre de pouvoir économiser. C'est pas aussi la responsabilité du pouvoir public, c'est de savoir qu'est-ce que la personne gagne dans ces pays pour lui permettre de dépenser, à économiser pour que demain il crée la richesse.
Oui, vous avez raison, nous devons reconnaître que le traitement est très bas en République démocratique du Congo, mais ne vous trompez pas, le problème est plus profond. Ça veut dire que la personne n'économise pas lorsque le salaire est bas, mais même lorsqu'il gagne un grand salaire, il n'économisera pas. Je vais vous dire qu'un cadre congolais qui gagne 4000 dollars aura beaucoup plus de difficultés à économiser. Parce que, observez, un cadre qui gagne 4000 dollars, il ne va pas vivre à Kinshasa, donc dans les banlieues de Kinshasa.
Mm-hmm.
Aussitôt, il va vouloir venir louer une maison à la Gombe de 2000 dollars. Et il va vouloir avoir une voiture à crédit, peut-être de 900 dollars. Il va vouloir avoir un chauffeur, et puis ses enfants doivent aller à l'école privée, et sa femme doit avoir des bonnes. En fait, quand si on fait les calculs, peut-être qu'il dépense 6 000, donc il est obligé de... Donc tout le monde essaie de vivre
au-delà de ses moyens.
Alors, cette masse de préparation montre que même si vous donnez 100 millions de dollars à 1000 cadres congolais, je vous jure qu'ils ne créeront pas la richesse. Je vais vous donner un exemple. Vous pensez que c'est beaucoup d'argent, mais vous verrez comment la conséquence des manques de préparation commence à perdre des gens pauvres. Si vous donnez 100 millions de dollars à 1000 cadres congolais, donc chacun aura au moins 1 million de dollars. De ces 1 million de dollars, chacun paiera au moins d'abord une maison. Parce que nous avons une culture qui nous dit, voilà, la richesse, c'est d'abord la maison.
Mm-hmm.
Chacun va payer une villa de 600 000 dollars. Donc nous aurons 60 millions de dollars qui seront dépensés juste pour le confort dans la maison. Et puis, chacun va payer une voiture et pour sa part, et chacun va dépasser au moins 150 000 dollars en raison de 15 millions de dollars pour la voiture et ils vont avoir un coût de vie très élevé en fonction des voyages, de ceci, cela, parce qu'ils sont riches. Donc, on aura pas dépasser 90 millions de dollars en consommation. Imaginez-vous, c'est lorsque chacun va rester avec 100 000 dollars qui va se dire que bon, voilà, qu'est-ce que je
vais faire, une pharmacie,
et tout ça. Ou quoi. Et voilà. Alors, mais imaginez, monsieur Pierrot, si quelqu'un reçoit 1 million de dollars, il n'écrit pas les richesses. Mais la tendance sera de chercher encore que l'État nous donne encore beaucoup plus. Les gens ne comprennent pas que la richesse a à voir avec les comportements que nous avons du peu que nous avons.
Et ça, c'est important, il faut savoir préparer les gens à lutter contre la pauvreté dans une préparation. On va écouter les auditeurs, ils sont nombreux parce que le sujet est très très important. On voit aujourd'hui la manière de la vie que les Congolais mènent. J'ai évoqué tout à l'heure les paradoxes entre la potentialité, mais faudrait-il aujourd'hui enseigner les gens à pouvoir transformer ces potentialités. 081-890-6315 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Félicien, vous avez suivi notre invité. Ça dit qu'il y a d'abord la responsabilité du pouvoir public, c'est en termes d'organisation de la société par rapport à la gestion de nos richesses, mais il y a aussi le problème de comportemental personnel dans la compréhension même de quelle manière on peut lutter contre la pauvreté. Au-delà du fait que vous intervenez dans nos émissions, rappelons quand même que vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça dit que vous avez déjà vécu une expérience sur le terrain de comment on peut arriver à se donner soi-même pour combattre la pauvreté. Félicien, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, bonjour aussi à l'invité.
Oui, on s'écoute.
Oui, moi je vais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'invité dans ce qu'il est en train de dire. On dirait qu'il est en train de parler de la théorie qui n'est pas aussi facile à appliquer. Et il doit d'abord reconnaître que le peuple congolais c'est un peuple travailleur, parce que quand vous voyez les taux de chômage, mais quand même, ces gens-là, ils vivent, ils se marient, ils ont des enfants, ils louent des maisons, ils mangent. Ça, c'est quand même la félicité. Mais si ces gens-là qui se débrouillent comme ça, ils sortent le matin sans savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils doivent trouver quelque chose pour nourrir sa famille, pour envoyer les enfants à l'école. Si demain, on leur donnait d'autres conditions de vie qui soient meilleures, vous pensez que ces gens-là ne vont pas faire mieux? Moi, je ne pense pas que c'est ça qu'on doit dire. On est 70 millions d'habitants. Vous n'allez pas prendre 70 millions d'habitants. Chacun est capable de créer la richesse. Chacun est capable de devenir riche par lui-même. Il y a d'abord l'État qui doit mettre des conditions de vie normales, qui doit organiser la société. Prenez le cas de l'Europe. Mais le chômeur est payé comment? Même les Congolais qui s'en vont là-bas quand ils ont des papiers, ils refusent même d'aller travailler parce que c'est qu'on lui paye en tant que chômeur, c'est qu'on paye à ses enfants, ça lui suffit que d'aller travailler. Et vous dites que non, il faut créer la richesse, c'est tout le monde qui doit créer la richesse. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Mm-hmm.
Vous prenez le cas de la Libye. Mais en Libye, un étudiant qui termine, il a une voiture, une maison et tout qu'on sort. Comment on avait fait pour faire ça? Mais c'est avec la richesse de ces pays-là. C'est la bonne gestion, c'est la bonne gouvernance et la bonne répartition du revenu national. Ce n'est pas que Kadhafi a demandé aux Libyens, chacun doit créer la richesse. La richesse était déjà là et l'État a organisé la bonne gestion de cette richesse pour que ça puisse profiter à tout le monde. Et nous, quand on dit que nous sommes un scandale de toutes sortes de richesses, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que nos dirigeants font de cette richesse? Quand même les gens qui travaillent, ils ne savent même pas vivre. Et vous voulez que tout le monde puisse devenir commerçant, tout le monde puisse créer son entreprise, tout le monde puisse faire ceci, cela. Je ne connais pas ces pays-là où ça se passe comme ça, même aux États-Unis. Mais il y a l'État quand même qui a prévu le minimum. Et les grands nombres d'abord est pris en charge par les entreprises de l'État et les entreprises privées. Et puis ceux qui se débrouillent, même ceux qui ont des richesses, ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont pris en charge par l'État ou les entreprises privées. Mais regardez ce que chez nous, ce qui se passe.
Oui. Revenons maintenant dans les cas concrets, Félicien, comme nous regardons notre pays, on voit bien sûr que nous sommes déjà dans les systèmes où la distribution de revenus ne peut pas permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver, il faut qu'on se les dise la vérité, que ce soit la manière dont nous sommes payés actuellement. Alors, il y a la responsabilité, comme le disait tout à l'heure notre invité, l'ignorance auprès du pouvoir public de savoir comment on peut faire pour aider la population à pouvoir évoluer dans la création des richesses. richesse, à la lutte contre la pauvreté, il y a la responsabilité individuelle. Mais dès lors que nous nous retrouvons déjà dans ces paradoxes, ou aujourd'hui ou demain, je ne crois pas que ce soit peut-être le mois prochain, qu'on puisse arriver à inverser la tendance à la distribution de ressources. Comment on peut arriver, et pendant cette période, parce que les faits sont là, à pouvoir s'engager dans la lutte contre la pauvreté?
Moi d'abord, je suis étonné de voir que dans ce pays, on se réjouit, et quand on est en 76e sur l'indice, je ne sais pas, du développement humain, 176e sur 187, et on est content. Et on dit, non, on a fait, on a gagné 11 places. Est-ce que nous méritons ça? Ce pays mérite-t-il qu'il soit à cette place-là? Mais ceux qui nous gèrent devaient avoir honte, ils devaient déposer son aller. C'est pas normal. Un pays éclair de tout le monde, un pays envié de tout le monde, envié par tout le monde, nous avons des guerres à cause de nos richesses. Et nous sommes pauvres, nous sommes compétents, sixièmes, et nous nous réjouissons pour ça. Non, moi je pense que les problèmes se trouvent dans la gouvernance. Il faut une bonne gouvernance, il faut l'éthique, la morale, il faut combattre la corruption, l'impunité. Quand nous allons réussir ce pari-là, c'est alors que ce pays sera utile pour tout le monde. Ce pays va donner à chacun ce qu'il faut, ce que Dieu a prévu pour lui, parce que de la richesse qui se trouve là, Dieu ne l'a pas donné pour un groupe et, non, et pas pour les autres. Mmh. Faisons comme les autres, faisons comme les Occidentaux, faisons comme Gaddafi a fait, et ne nous battons pas seulement pour le pouvoir, pour le pouvoir.
Mmh. Merci beaucoup, Félicien. Vous avez expliqué en disant que la question, c'est une question de gouvernance, parce que c'est la question de gouvernance à la lutte contre la corruption, la question de l'éthique, c'est ce qui peut aider à ce qu'il y ait la redistribution normale de revenus pour que chacun se retrouve dans cette lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup, Félicien. On reste à Kinshasa avec vous, André. André, merci d'être avec nous. Bonjour. Et André, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour également à l'invité et à tous les auditeurs de la radio.
Et on vous écoute, André.
Par rapport à ce que vient de dire notre invité, je suis d'accord avec M. Persien, mais beaucoup de points, je ne suis pas d'accord avec lui. Lorsqu'il dit qu'il faut qu'il y ait une formation pour ce qui termine les études, soit pour former les jeunes Congolais ou les Congolais qui vont entreprendre certaines activités eux-mêmes. Je crois que nous avons tous étudié, nous avons fini, nous sommes sur les productions des camps pour les étudier. On sait qu'on est bien formé, on a certains cours qui nous montrent comment on peut entreprendre sa propre activité. Alors, lorsqu'il dit qu'il manque une formation, je crois que là, il se trompe. Je vais apporter ma contribution pour dire que la politique ou la stratégie mise en place pour la création ou la lutte contre la pauvreté au Congo dépend du gouvernement. Le gouvernement n'a pas prévu aussi une mesure pour permettre aux chômeurs ou aux étudiants de relancer pour la création de leur propre stratégie. Lorsqu'il dit qu'il faut créer, entreprendre eux-mêmes, faire ça, faire ça. Je crois qu'on peut entreprendre que lorsqu'on a quelque part, quelque chose pour entreprendre, je ne crois pas quelqu'un va quitter dans sa maison avec un patient, s'il est un rapport, il est dit non, moi j'aime faire ça et automatiquement ça tombe, il commence à le faire. Il faut qu'il y ait une politique de financement à des projets qui sont établis, qui sont réalisés par beaucoup de gens aujourd'hui. Nous sommes tous victimes de ça. Lorsque
oui. On pourrait parler. Oui, si l'invité parle de formation, vous avez dit que vous-même, vous l'avez dit qu'il n'y a pas de mesures aujourd'hui pour aider ceux qui terminent. Pensez-vous le fait que quelqu'un puisse avoir l'argent, qu'il soit financé, s'il n'est pas encadré, pensez-vous que cet argent peut demain les servir à combattre sérieusement la pauvreté? Rappelons quand même qu'il y a beaucoup de procès aujourd'hui au niveau des tribunaux, parce que les gens ont reçu des crédits bancaires, des sommes colossales, et n'ont pas pu évoluer dans les affaires, dans l'entrepreneuriat quand même, André.
Je ne crois pas que quelqu'un va réviser son rapport, va réviser un projet de ce qu'il va faire, de manquer quoi faire. Là, il incombe, là, cette poste incombe aux institutions d'accord des crédits, par exemple, les banques. Ça, c'est automatique, c'est obligatoire pour les banques avant d'accorder des crédits aux particuliers, aux gens à qui vous n'avez pas du tout confiance. Ça, c'est la banque qui doit aider la formation de ces gens-là. Mais nous, dans ce point, nous ne parlons pas, nous ne donnons pas la charge à des banques, à des institutions financières ou d'octroi des crédits. Nous parlons pour la pauvreté qui gangrène notre pays, la pauvreté générale de la RDC. Ça, c'est un problème du gouvernement. Le gouvernement, nous savons tous qu'il y a des gens qui sortent des universités, qui sont bien formés.
Est-ce que quelle est la politique que le gouvernement a mis en place pour aider ces gens-là à entreprendre? Quels sont les financements qui sont accordés à ces gens-là? Rien du tout. Quand je dis que les gens travaillent aussi également dans l'unité, ceux qui travaillent, moi je me dis au Congo, il n'y a pas vraiment du tout de travail. Ceux qui font ce que nous voulons comme s'ils travaillent, ça c'est un chômage caché. Si quelqu'un qui travaille, arrivé les 15 jours au cours de ce mois, il n'a plus rien, il doit attendre le mois prochain, ou soit il doit encore s'endetter face au chômage caché. Et ce rapport de crise qu'il nous a fait pour comme si on a gagné 11 places par rapport à ça, moi j'ai dit ça c'est un faux. Lorsqu'on était sur ces combien d'élèves qui faisaient 24% à l'école, qui faisaient 26%, il s'est dit il est satisfait. Non, c'est un échec, toujours un échec. Donc, chez nous, il n'y a plus assez d'emplois, il n'y a plus une bonne politique, une bonne stratégie pour aider à lutter contre la pauvreté. Donc, c'est ça qu'il faut commencer par faire ça.
Voilà, ça veut dire qu'il
travaille d'abord.
Oui.
Ceux qui travaillent d'abord ne se retrouvent pas et vous dites encore aux autres de se financer eux-mêmes, de s'auto-financer. Mais ceux qui travaillent ne se retrouvent pas. Ne se retrouvent pas. C'est du chômage caché.
Alors, André, vous estimez qu'à ce niveau-là, il n'y a que l'État qui a la responsabilité de pouvoir mettre en place des mesures efficaces de lutte contre la pauvreté. Il ne revient pas à l'individu qui n'a pas encore de moyens de pouvoir s'engager dans l'autofinancement pour lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup, André. Même si on a eu des petits soucis avec votre ligne téléphonique, mais dis-moi, le message est passé. Timothée, vous êtes à Karanga, au Kasaï Central. Bonjour, Timothée.
Bonjour, monsieur Thébon.
Et alors, si nous regardons ce que l'invité disait tout à l'heure, on sait aujourd'hui que la situation dans laquelle on se retrouve en RDC avec ces paradoxes de potentialité, de pauvreté, on n'a pas de salaire, on n'a pas de mesures mises en place par l'État pour arriver à lutter contre la pauvreté. Mais dès lors que l'État, vous vous rendez compte, comme les autres l'ont dit, que l'État n'a pas mis en place des mesures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on lutte contre la pauvreté? Faudrait-il croiser les bras pour attendre aujourd'hui parce que l'État puisse faire où il y a des initiatives que la population peut prendre à votre niveau dans la lutte contre la pauvreté? Pensez-vous que c'est possible?
Merci bien. Quand même, nous saluons la performance de la RDC pour avoir gagné ces 11 places dans les classements de développement des limites. Et que ça ne soit toujours pas si, disons, vu la contenance ainsi que la teneur des richesses qui disposent notre pays. Moi, je veux militer efficacement contre la pauvreté, c'est travailler à l'expansion des ressources matérielles, économiques ou sociales des pauvres afin qu'ils puissent reconquérir la maîtrise des élèves de fin. Parce que vous savez aujourd'hui que les pauvres, ils n'ont pas l'espoir qu'ils pourront un jour subvenir à leurs besoins bien se retrouver dans la vie. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas mis des moyens suffisants à leur disposition pour y arriver. Alors pour moi, je préfère, si on veut seulement lutter contre la pauvreté, on doit plutôt s'intéresser à ces trois piliers. D'abord, il faut l'accès au travail, une aide de revenus suffisante pour éviter l'exclusion sociale et un meilleur accès à des services sociaux. Alors aujourd'hui, nous jeunes que nous avons terminé les études universitaires, nous avons du mal d'abord à avoir de l'emploi. Et même ceux qui veulent créer de l'emploi dans des jours, ils sont invités à d'énormes difficultés, surtout des difficultés fiscales. Vous savez, il y a toujours de l'administration qui serait toujours derrière ces gens qui veulent créer de l'emploi pour se subvenir. Ils les imposent toute une ribambelle d'étapes. Alors, ces personnes-là ne parviennent toujours pas à se retrouver. Et il faut aussi la répartition équitable des revenus et la valorisation des ressources humaines, du fait que l'homme congolais n'est pas d'abord valorisé, parce que tout le développement de tout un pays dépend d'abord de son capital humain. Quand les ressources humaines de la population congolaise ne sont pas valorisées, en tout cas, nous ne pouvons pas espérer. Si nous comptons toujours à ce que les bailleurs des fonds puissent toujours venir à notre aide, alors que nous-mêmes sommes en train de nous vanter et nous avons des ressources, il faut mettre ces ressources-là en valeur, c'est-à-dire éduquer d'abord la population congolaise pour que cette population-là puisse prendre son destin en main en créant des emplois et éviter aussi des sectarisations, surtout de la part de l'administration fiscale, parce que nous savons que dans notre pays, nous avons trop de taxes qui sont en train de faire, alors qu'il n'y a même pas de redevance dans ces taxes-là. Toutes les routes et toutes les voies de communication sont toujours dans la cible. Mieux vaut d'abord encourager les personnes, c'est-à-dire tous ceux qui ont étudié, à créer de l'emploi et favoriser d'abord l'environnement. notre environnement n'est pas favorable à ces questions.
Et les gens puissent payer d'employés. Et là, vous êtes revenu au-delà de tout, la responsabilité du pouvoir public dans la lutte contre la pauvreté. Il y a l'accès au travail, les revenus doivent être suffisants, mais dans l'entrepreneuriat, vous estimez qu'il puisse aider à combattre la pauvreté, c'est que l'État doit mettre en place des mesures nécessaires qui doivent encourager ceux qui ont la possibilité de pouvoir créer l'emploi et le faire dans la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup, Timothée. On va terminer cette première partie des auditeurs avec vous, Ernest. Vous êtes en Matadi. Bonjour, Ernest.
Bonjour, Piro.
On vous écoute, Ernest.
Merci beaucoup. Je crois que l'ami qui vient d'intervenir a ramassé beaucoup d'éléments que j'allais évoquer. Mais je me dis, la lutte contre la pauvreté doit être un programme de tout gouvernement et de toutes les nations qui se respectent. En le sens que c'est le gouvernement qui trace les lignes de conduite, les programmes à sonner dans les enseignements. L'enseignement primaire, secondaire, universitaire doit avoir des objectifs. Comme lutte contre la pauvreté de tous les citoyens. Dans le sens que, dans tous les domaines, l'État, dans les projets, par exemple, les projets des sociétés que chaque parti politique prévoit pour gérer l'espace national, on doit savoir que dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la forêt, dans le domaine des terres, l'agriculture, dans tous ces domaines, il y aura toujours des esprits qui vont se distinguer pour que ces esprits soient écartés, qui doivent créer des entreprises ou des sociétés qu'on va injecter pour les autres biens, on va recruter les gens. C'est-à-dire que si le gouvernement a un programme incitatif, un entraînement incitatif qui fait relancer les initiatives privées et encourager les initiatives, je crois que tout le monde se rendra compte que la lutte contre la pauvreté sera une tâche facile pour la nation. Or, si on ne le fait pas, on se rend compte, on laisse vraiment la situation au privé, d'abord créer la formation, le travail pour être créateur d'emplois, sans pourtant avoir des bases dans l'enseignement national, des préoccupations de lutte contre la pauvreté, je crois qu'on va perdre le temps. Parce que les dépenses, l'État, c'est le premier élément, le premier monsieur qui a de l'argent, c'est l'État congolais. Et l'État doit savoir qu'est-ce que j'ai pour ma population. Dans ces conditions, l'État prévoit déjà les choses. Et dans la sélection des financements, dans la sélection des formations, on sait que nous avons certains objectifs dans tous les domaines de la vie nationale. Sinon, on travaille à vie et on est là. Après, on dit que la pauvreté ne change pas. L'État doit créer des mécanismes pour que les citoyens, lorsqu'ils vont travailler, ils vont payer des taxes à l'État. Et l'État sera très fort pour diversifier les actions au niveau national. Voilà ce que j'avais.
Merci beaucoup, Ernest. Vous avez ajouté quand même un élément important, les objectifs de l'enseignement. L'enseignement doit être incitatif. Et puis, il doit conduire les gens à des initiatives. Et tout ça, c'est l'État qui doit mettre en place un cadre qui puisse permettre à ceux qui sont formés soient formés avec un objectif et que dans cet objectif de formation, on puisse mettre au centre la lutte contre la pauvreté. Merci. Je vous rappelle encore que vous avez besoin d'intervenir dans cette émission qui s'occupe de la lutte contre la pauvreté en nous appelant au 081-890-6315.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio Capi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio Capi.net, la radio en différé à votre service.
Ricardo Kanyama, vous avez suivi nos auditeurs, les uns n'ont pas été d'accord avec vous quand l'État a été écarté dans ces débats. On estime que c'est l'État qui a la responsabilité première de la lutte contre la pauvreté parce que c'est l'État qui doit mettre en place des mécanismes qui doivent accompagner même les initiatives privées des individus pour qu'ils soient vraiment conduits à lutter contre la pauvreté. Mais il y a Ernest qui a dit quand même qu'il faudrait cela doit être considéré comme un objectif même au niveau de l'enseignement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre réaction par rapport à ce qui a été dit.
Oui, moi je pense que nos intervenants ont parfaitement raison en disant que c'est la responsabilité de l'État. Mais moi, je ne vais pas vous lire, je vais dire, reprendre cela. Parce que ça, c'est le discours de tout le monde. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on nous demande, on dit, c'est la responsabilité de l'État, la responsabilité de l'État. Moi, je donne un point de vue comme spécialiste du domaine pour vous dire que l'État a sa responsabilité.
Mm-hmm.
Et l'homme, l'individu aussi, a sa responsabilité. On a donné, par exemple, l'exemple de la France ici. Je pense que M. Félicien qui a donné l'exemple de la France, il nous a dit seulement qu'en France, on paye les chômeurs. Mais si on paye les chômeurs, c'est parce qu'il y a une classe productrice des richesses qui est faite en France à cause des impôts que ceux-là qui produisent les richesses payent. Et puis, on paye les chômeurs, mais il y a toutes les conditions qui sont réunies, mais ce n'est pas tout le monde qui devient riche. Il y a quand même ce qui manque chez nous ici, c'est une classe créatrice de richesses ou d'emplois.
Qui peut absorber ceux qui sont qui n'ont pas de moyens, les pauvres, parce qu'ils sont payés les termes.
Oui, qui peut absorber. Parce que, regardez, même lorsqu'on parle du gouvernement, je vous donne un exemple aujourd'hui. C'est tout le monde qui est frappé par la pauvreté. Même les enfants des anciens dignitaires d'hier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scolarisé les enfants. On envoie les enfants étudier en Europe, partout. Ces enfants reviennent ici, ils trouvent des emplois. Les mêmes emplois, ils sont sous-payés, ils ne sont pas en mesure d'avoir les conditions de vie qu'avaient leurs parents. Donc, définitivement, moi, je suis en train de dire, aucun État du monde ne rend la population riche. L'État crée les conditions. Oui, nous appelons à l'État de créer les conditions. Mais je me dis que si, même si l'État créait les conditions, si la population n'est pas préparée à entreprendre avec succès, la population ne saura pas le faire. Pourquoi? Tout le monde parle de l'argent. Ou même des problèmes de surface qu'on est en train de parler ici. Pourquoi? C'est parce que celui qui dirige, il n'a pas de connaissances sur la richesse. Au lieu de permettre à l'entrepreneur
d'évoluer,
on surtaxe parce qu'ils ont les besoins qu'ils doivent satisfaire, ils ont des traits de vie très élevés. C'est un problème complexe. Pour ça, j'ai dit que quand on forme toute la population, celui qui dirige saura. Que lorsqu'on laisse l'entrepreneur évoluer, c'est un avantage parce qu'il créera les emplois à la longue et il continuera à payer les taxes, n'est-ce pas? Parce que ça, quand il ne comprend pas, lui prendra des mesures en fonction de ses intérêts immédiats ou de sa famille politique ou du temps qu'il a au pouvoir. Mais définitivement, il y a des responsabilités à des niveaux. Moi, je ne le dis pas par des théories, mais j'ai étudié ce domaine et je dois vous le dire que c'est un domaine qui n'est pas connu. Et ça ne m'étonne pas que les gens n'acceptent pas mon point de vue parce que ce n'est pas un domaine qui est connu dans notre système éducatif. Juste que là, je dois encore discuter avec les experts ici. Mais la preuve, vous allez voir que beaucoup de gens, même ceux qui ont eu la chance d'avoir beaucoup d'argent dans ce pays, ils ne parviennent pas à gérer l'argent. Parce que l'argent, en fait, c'est comme un outil. Imaginez que moi, je ne suis pas un chirurgien. On peut me donner le meilleur outil de chirurgie du monde, je ne saurais pas opérer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas chirurgien. Mais imaginez maintenant que je suis un chirurgien. Même si avec des outils dérisoires, je peux quand même opérer.
Mm-hmm.
Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été formé sur le plan financier, même lorsqu'on lui donne l'argent, il finira par le perdre. Et ça c'est scientifique.
Et même si les gens, on améliore le système, les gens sont payés des bons salaires, mais s'ils ne sont pas encadrés sur la gestion même de ces salaires, la question de la pauvreté va être toujours récurrente.
Oui, on doit faire les deux, pendant que l'État améliore les conditions, mais on prépare aussi
la population.
Pourquoi? Parce que l'éducation financière, vous savez, un enfant a été initié à dépenser. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 200 dollars par mois, il va dépenser tous les 200 dollars. S'il y a une augmentation, on commence à le payer 1000 dollars, il va toujours dépenser tous les 1000 dollars pour les dépenses de consommation. Si on augmente son salaire à 5000 dollars, il va toujours continuer avec les mêmes rythmes. Il suffit de voir ceux qui occupent des postes politiques. Vous voyez, quand quelqu'un occupe des postes politiques, les standing de vie qu'il qui l'a, mais parfois on voit que 5-10 ans après d'avoir quitté les commandes, les gens se retrouvent dans la pauvreté. Combien de millions ces gens-là n'ont pas eu? Ils ont eu beaucoup de millions. Mais l'éducation financière, quand vous n'avez pas une bonne éducation financière, vous ne pouvez rien faire avec des richesses. Parce qu'on a dit de parler des Congo qui est pauvre, mais je vous dis que c'est ici au Congo que ceux qui arrivent avec la culture financière deviennent riches. Il faut seulement observer les opérateurs étrangers qui arrivent ici. La différence entre eux et nous, ils ont la culture de la richesse. Nous n'avons même pas la culture de la richesse. D'ailleurs, le sujet de la richesse est un sujet tabou déjà dans notre société. Vous savez que quand moi je dis aux gens, par exemple, que nous apprenons aux gens comment devenir riches, déjà quand ils entendent ça, ils sont poussés. Parce que chez nous, nous comprenons devenir riche d'abord comme toucher à la magie, la richesse à voir avec l'occultisme, la richesse à voir ceci. Donc il y a tout un blocage culturel. Et s'il vous plaît, si nous pouvons faire cette émission à fond, on va démontrer aux gens que les gens, en matière de richesse, nous avons des problèmes. Et si ces problèmes ne sont pas résolus,
quel que soit ce que l'État peut faire, même si l'État pouvait donner aux gens des financements pour créer des entreprises, dès lors que les gens n'ont pas été encadrés, ça sera difficile que ces gens vraiment utilisent ces moyens. moyens pour lutter contre la pauvreté.
Mais ça sera difficile. Pourquoi? Imagine, par exemple, on dit, on donne à quelqu'un un crédit d'un million de dollars et il n'a jamais été préparé. Cette personne, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est payer sa maison de 200 000 dollars. Or, le crédit qu'il a demandé, c'était pour atteindre un objectif quelconque. Donc, il y a un problème comportemental avec, avec l'argent. Et les deux, j'ai démontré ici que les banques, pour donner beaucoup de crédits, il faut que les peuples l'économisent aussi. N'oublions pas que les banques donnent aussi des crédits en fonction de ce qui a été économisé. Si les peuples n'économisent pas, si les peuples n'économisent pas dans la banque, les banques auront des problèmes de liquidité. Alors, ils ne voudront pas donner des crédits à l'autre à long terme. Vous voyez, par exemple, maintenant, dans notre pays, les crédits sont très élevés, on ne donne pas des crédits à long terme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet équilibre-là entre l'épargne et l'argent disponible.
Oui, mais pour rester dans votre pensée, avant d'écouter, il y a Ismaël qui est à Lubumbashi. Il y a tout à l'heure, Ernest disait qu'il faut avoir un enseignement objectif. C'est-à-dire que la lutte contre la pauvreté devait être insérée dans notre enseignement, au lieu que nous puissions rester dans ce que nous disons tous les jours. Pensez-vous aujourd'hui qu'il faut repenser notre enseignement pour l'adapter à la création de richesses, à la lutte contre la pauvreté, au-delà de ce que l'État doit faire?
Oui, absolument. Ça, c'est mon combat. Je me dis que notre enseignement est dépassé. Notre enseignement est dépassé, ça ne correspond plus avec la réalité. Il est important que les autorités comprennent la nécessité d'inclure dans notre programme, je voulais dire, des programmes de l'éducation financière ou de comment réussir dans la vie. Il y a des années, on avait beaucoup de cas de filles mères dans notre pays, et on a installé des programmes de l'éducation à la vie, et ce problème a été résolu. Et si aujourd'hui on peut insérer des mêmes cours ou des modules, par exemple à l'école secondaire, au début de l'université ou à ceux qui finissent l'université, ça pourrait permettre à la jeune génération d'avoir les connaissances que l'ancienne génération n'avait pas, qui lui permettrait graduellement de sortir de la pauvreté. Parce que lorsque l'homme connaît, comme nous allons voir à la fin, ce qu'il faut faire exactement, il peut graduellement sortir de la pauvreté. Et ça, c'est très important. Nous avons déjà commencé. Dernièrement, on m'a invité à une conférence à l'Université catholique de Kinshasa. C'était pour parler aux étudiants du succès après les études. Ils étaient très intéressés. Pourquoi? Parce qu'on ne leur parle pas de ce sujet-là. On se limite seulement à leur donner une quantité d'informations et on les laisse. Et la jeunesse, quand il a fini, il a son titre universitaire, il ne sait pas comment il faut s'y prendre et surtout lorsqu'il ne trouve pas un emploi. C'est pour cela que notre population est inefficace.
Et pour écouter les autres auditeurs, c'est là que le travail s'est fait en deux temps dans la lutte contre la pauvreté. Cela veut dire le travail de changement de comportement auprès d'abord de la population, mais aussi la responsabilité du pouvoir public. C'est ça. C'est-à-dire qu'on doit faire un travail en deux. C'est-à-dire que celui qui accède au poste de responsabilité doit lui-même être formé dans ses notions de la lutte contre la pauvreté, et comme ça, il saura prendre des mesures efficaces qui vont aussi être répercutées auprès de ceux qui sont dirigés et qui sont aussi formés. Et l'ensemble de ça, ça peut aider à ce qu'avec les moyens que les gens peuvent avoir, ils peuvent lutter contre la pauvreté. Voilà. Et Ismaël, vous êtes à Lubumbashi?
Oui, je suis à Lubumbashi. Bonjour, Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, quand même, c'est un paradoxe ce que notre invité venait de dire. Hein. S'il faudrait lier la lutte contre la pauvreté avec les moyens de subsistance que les gens peuvent avoir en termes des salaires et des moyens, on a toujours dit ça, hein, que quelqu'un était riche hier, il avait beaucoup d'argent, il avait un grand travail, de grands salaires, mais quelques années après, on retrouve que tout le monde aurait devenu pauvre, tout le monde s'est plaint. Alors, et les explications données par notre invité, comment vous pouvez répartir les termes des responsabilités, que ce soit du côté du pouvoir public, que ce soit du côté de la population, en termes de lutte contre la pauvreté?
Merci beaucoup. J'aimerais plus vite vous poser la question de savoir, que vous êtes une fois demandé, mais pourquoi les peuples congolais sont très pauvres? Ce n'est pas d'autant dire que les gens ne travaillent pas. Les gens travaillent à un grand nombre, à un nombre même élevé, et par rapport à ceux qui sont même au chômage. Mais la question, le problème qui se pose est celui-ci. À force que ces derniers travaillent librement, et ils n'ont pas l'encadrement, c'est ça l'une des difficultés majeures. Il fait en sorte que ces gens puissent s'enfoncer dans la misère et dans la malaise. Nous avons 12 000 et des exploitations minières ici à la province que nous sommes et à d'autres provinces d'alentour. Mais je vous jure que même ceux qui travaillent là, ils sont totalement abandonnés. Si vous allez trouver 100%, il y a pas 5 à 4% ceux qui sont engagés par ces derniers. Et les salaires, en fait, comme je vous dis, c'est quel salaire en soi que ces derniers trouvent? À force aussi que ces derniers travaillent dans ces genre de conditions, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de suivi pour ces derniers. C'est pour cette raison, et les villageois, et même les employés sont en train de souffrir.
La Bible en avait déjà dit que nous vivons l'état où l'homme a dominé l'homme à son détriment. Mais qui a sauvé le peuple congolais? C'est nous-mêmes. Donc, donnez l'exemple à celui qui, toi tu es ministre, ton enfant est en Europe, quand tu termines, c'est celui qui va récupérer tel ou tel emploi. Il y a vraiment des fois des raisons pour Ismaël demain pourrait avoir le développement, il pourrait avoir un emploi qui peut même le satisfaire et satisfaire aussi sa famille. Nous avons aussi des mines, des minéraux et tout. L'exploitation en soi, ça existe. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il a fallu à ce que ce minéraux soit fini, ici, plutôt que ça soit fini. Afin qu'on va avoir aussi le résultat qui va finaliser ce qu'on est en train d'exploiter. On va encore avoir un autre nombre de gens qui travaillent et qui peuvent aussi accéder aussi à l'emploi. Je vous donne encore une autre information pour ceux qui travaillent, par exemple, pour des gens en chômage. À fois, ils ne s'intéressent même pas d'offres d'emploi. Par exemple, il y a aussi l'idée d'accès à une carte de demande d'emploi. Il y a combien de personnes? Quand on a même dit qu'il y a la diminution des gens de taux de chômage, c'est parce que les gens ne s'intéressaient pas, ne demandaient pas d'emploi. C'est une des difficultés que nous avons. Les jeunes que nous avons aujourd'hui, quand il y a la musique, ils s'accroient à la musique, mais quand il y a une petite monétrie, ils ne s'intéressent jamais. Ce n'est pas les autres qu'on offre dans la radio papier. C'est une des jeunes qui s'intéresse même pour postuler. Il est tellement difficile.
Il y a beaucoup de gens qui appellent souvent. Radio Capi pour savoir comment ils peuvent postuler, mais vous avez d'abord posé le problème de l'encadrement. Vous l'avez dit, il y a des gens qui travaillent, ils peuvent être bien payés, mais les gens ne sont pas encadrés, vous l'avez dit, mais ceux qui travaillent aussi avec des salaires modiques dans ces conditions, ça sera difficile que les gens et que ceux qui sont mieux payés, qui ne sont pas encadrés, et ceux qui travaillent qui ne sont pas mieux payés, et tout ça, l'ensemble des deux groupes, ça ne peut pas permettre à ceux que les gens s'engagent à lutter efficacement contre la pauvreté. Alors, vous êtes à Isiro. Et cela veut dire ici, il se dégage d'abord la responsabilité du pouvoir public qui doit mettre des mesures efficaces dans la redistribution des richesses pour permettre à ce que chacun se retrouve et qu'enfin, qu'on arrive à réduire sensiblement cette pauvreté que nous avons, Alain. Bonjour. Et quel est votre point de vue?
Bonjour. Merci pour l'opportunité. Je voudrais quand même m'acquitter d'un agréable devoir de saluer votre invité qui a pratiquement donner la problématique de notre développement. En tout cas, il serait malhonnête de notre part de ne pas reconnaître que le plus grand obstacle aujourd'hui, le plus grand blocage aujourd'hui, relève de la dimension mentale. Parce que lorsqu'on prend les ténors du développement, on nous dit que le développement n'est qu'un processus cumulatif. Et dans ces processus cumulatifs, on vise généralement la transformation des structures. Alors, parmi les structures à transformer, premièrement, c'est la structure mentale. Parce que partant de cette structure, comme vous le savez, le développement, c'est une culture que nous autres n'avons pas eue dès le commencement. C'est-à-dire, nous avons eu à bénéficier de cette nouvelle approche, de cette nouvelle organisation sociale par l'Occident. Et alors, cela voudrait assez que nous puissions adapter, n'est-ce pas, nos réalités par rapport à cette exigence. Qu'est-ce que moi j'ai compris? J'ai eu à faire le tour du Congo pour voir et essayer de juger le niveau de pauvreté ou la nature de la pauvreté de la population congolaise. Présentement, je suis à Isiro et qu'est-ce que j'ai constaté? La majorité des gens sont en activité, mais malheureusement dans une activité de subsistance. C'est-à-dire des gens travaillent pour manger, pour vivre, c'est-à-dire une vision assez court-termiste où on n'arrive pas à projeter l'avenir, on n'arrive pas à intégrer la dimension modernité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, quand ils se battent, et bien quand ils vont pour chercher de l'argent, ils en trouvent, mais tout simplement pour subvenir aux besoins existentiels. Or, lorsqu'on parle de la richesse d'une nation, on voit le long terme. C'est-à-dire, c'est une approche structurelle et non conjoncturelle. Et si vous prenez la structure économique nationale, vous allez vous rendre compte que le pays est caractérisé par un cercle vicieux de la pauvreté. D'une part, il y a l'offre globale qui est affectée par le fait qu'il y a une faiblesse en termes de revenus, et cette faiblesse en termes de revenus implique une faiblesse en termes de capacité d'épargne, et lorsqu'il y a une faiblesse en termes de capacité d'épargne, il y a un problème en termes d'investissement qui est réduit, et lorsqu'il y a réduction en termes d'investissement, le manque de capital, et le manque de capital conduit également à une faiblesse en termes de productivité. Et la même situation se retrouve aussi au niveau de la demande globale. Vous avez une faiblesse de productivité, cette faiblesse de productivité aura comme incidence une faiblesse de revenus, et la faiblesse de revenus demande, il y a une insuffisance en termes de demande, et dans la insuffisance en termes de demande, il y a aussi une incitation à l'investissement qui est réduit. C'est-à-dire nous sommes dans une situation de cercle vicieux de la pauvreté. Mmh. Alors, les responsabilités sont partagées. Premièrement, on doit savoir que la pauvreté touche d'abord le ménage. C'est-à-dire que ce sont les ménages qui sont de s'affranchir de cette pauvreté. La responsabilité de l'État vient en termes d'organisation, en termes de stimulant, en termes de structuration. Mais malheureusement, il y a une rupture entre l'État et le ménage. Parce que lorsque le ménage donne la responsabilité à l'État, ils oublient que l'État ne peut avoir de moyens que par le ménage. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous assistons à une sorte de blocage, tout simplement parce que la crise est plus systémique. Et ce qui nous met en porte-à-faux avec les exigences du développement. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de repenser d'abord l'organisation sociale. Mmh. On doit arriver à adapter l'organisation sociale par rapport à nos ambitions. Comment expliquer ? Lorsqu'on forme des gens, l'objectif, c'est de leur donner l'information. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un besoin en termes de transformation. C'est-à-dire qu'on doit mettre de côté l'enseignement basé sur les objectifs, mais plutôt l'enseignement basé sur les résultats. Chaque entité doit être spécialisée. Je prends les cas de Isiro. Isiro est caractérisé par le secteur minier, l'or. Il y a aussi la forêt, il y a l'agriculture. Mais malheureusement, lorsque vous prenez le niveau d'agriculture, c'est pratiquement archaïque, tout simplement parce que le système d'enseignement n'est pas adapté aux réalités du terrain.
Mais quand vous dites,
on cherche à former sous des juristes, sous des économistes, sous des relationnistes, alors que le besoin est dans le domaine agricole.
Comme vous l'avez dit pour Isiro, par exemple, on prend l'espace Kassai, on a connu ce problème avec du temps où le diamant faisait les affaires, mais il a quand même été démontré clairement que dans tous ces milieux où les diamants étaient exploités à fond, où il y avait beaucoup de masses d'argent qui circulaient, les degrés de pauvreté étaient aussi très approfondi, il faudrait qu'on les dise. Et là, vous avez insisté sur le problème de la transformation, sur les résultats. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle approche dans la lutte contre la pauvreté. Cela veut dire impliquer l'homme, commençant par le ménage, dans la transformation d'une manière structurelle à long terme, mais non résoudre la question des pauvretés d'une manière conjoncturelle. Merci beaucoup, Alain. Valérie et Ismaël, vous gardez. Et c'est Valérie Bétiendo qui garde la ligne. Je reviens à vous, Ricardo Kayama, parce que ce qu'elle vient de dire, Alain, tout à l'heure, dans la conception structurelle, est-ce que c'est vrai que les auditeurs ont dit, bon, notre ami André a dit, non, mais écoutez, on forme les gens à l'université. Est-ce qu'il y a, est-il aujourd'hui, nous écoutons plus en plus de gens qui parlent des centres de coaching pour essayer de former, pour expliquer à la population, parce que peut-être l'État ne pourra pas résoudre le problème du jour au lendemain. Mais si on doit s'inscrire dans la conception structurelle de la lutte contre la pauvreté, quel est l'apport alors de tous ceux qui ont déjà des spécialités dans ce domaine pour arriver vraiment à aider la population?
Oui, absolument. Je pense que ce centre de coaching et tout vient pour compléter le manque qui existe dans notre société. Nous ne devons pas oublier, comme on dit dans l'histoire, que pour mieux comprendre le présent, il faut étudier le passé. Et pour mieux préparer l'avenir, il faut bien étudier le passé pour comprendre le présent et planifier l'avenir. Notre population est formée essentiellement pour l'emploi. Et à 97% pour l'emploi. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous tous, nous avons été formés pour l'emploi et on ne nous a pas dit comment créer les richesses et vivre des richesses. Et les riches, ce sont des gens qui savent vivre avec l'argent parce qu'ils peuvent conserver l'argent et investir l'argent et l'argent peut travailler, créer des biens et des services et mettre les gens au travail. Alors, je suis en train de dire, je pose la question à tous les auditeurs, est-ce que vous connaissez... parce qu'une chose est d'avoir fait la chimie à l'université et une autre chose est de connaître la richesse. Y a-t-il un cours dans notre programme de diversité qui nous enseigne sur comment vivre avec l'argent pour devenir riche? Ça n'existe pas. Y a-t-il un cours qui nous apprend comment réussir après les études? Ça n'existe pas. Ça veut dire que nous appelons ça les schémas conventionnels. On dit à l'enfant, va à l'école, étudie, obtient un diplôme, cherche un emploi, aie ton salaire, paye la maison, la voiture, voilà, tu as réussi dans la vie. Mais ces schémas aboutissent toujours à la pauvreté. Donc, ces manques-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait, nous, par exemple, nous donnons l'essence des coachings financiers, et d'ailleurs, des gens qui viennent se rendre compte que beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup sur la richesse. D'abord, mon expérience personnelle, si vous le savez, j'ai fini les études universitaires ici. Et lorsque j'ai commencé à étudier les leaderships financiers, donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un homme devienne riche, j'étais étonné que dans notre système éducatif, on en connaît rien du tout. Et même des professeurs d'université très peu connaissent, par exemple, des philosophes qui ont écrit sur la dynamique des richesses, comment devenir riche, des choses comme ça. Donc, c'est tellement, c'est pas que nous les Congolais, nous ne sommes pas capables, mais seulement ces informations ne sont pas disponibles. Et je pense que ces gens de centre viennent pour combler ces vides. Et vous verrez que plus les gens apprennent, plus ils seront capables de résoudre les problèmes d'argent. Parce que la pauvreté peut se définir aussi comme l'incapacité d'une personne à résoudre ses problèmes d'argent.
Voilà. Valérie, vous êtes à Kindu, on est avec vous Valérie, vous avez suivi les uns et les autres, en une minute votre point de vue autour de cette question Valérie.
Ok, merci beaucoup Cyril, je salue aussi l'invité qui est avec nous. Bon, de toutes les façons, je suis content de son intervention, surtout lorsqu'il faut réaliser que dans la formation, nous n'avons pas des cours à caractère création de richesses et autres. Mais lorsque je vois bien l'histoire de notre pays, je me dis « ok ». Toutefois, l'État congolais qui nous a fait monter un peu de vie, c'est une bonne chose, mais il reste encore un grand défi à faire au niveau du gouvernement.
Mm-hmm.
Parce que quand je vois bien l'histoire du pays, je me dis ceci. Après l'indépendance vers les années 60, en 70, nous avons connu la taïanisation. C'était déjà un coup de force au cadre macroéconomique, au motif que les investisseurs devaient être découragés pour ouvrir dans les pays. Un peu plus loin, nous avons connu le plan Marshall et ainsi de suite. Finalement, on connaîtra la réforme monétaire, les bindos. Vous voyez un peu dans tout cela.
Mais ce que je veux, c'est que Valérie, quand vous prenez toutes ces réformes et toutes ces initiatives, on a un petit souci de bruit de fond sur votre ligne, Valérie. Mais en prenant tout cela et toutes ces initiatives mises en place par l'État, cela n'a pas résolu le problème de la pauvreté aujourd'hui dans notre société, que ce soit la réalisation, le plan Marshall. Et c'est ce qui nous permet de vous accorder la parole, Maurice. Et entre la responsabilité individuelle et le pouvoir public, comment on peut créer les équilibre Maurice pour résoudre cette question de pauvreté. En une minute pour terminer cet échange, Maurice. Bonjour et bienvenue.
Et bonjour Pierrot, et merci de m'avoir associé au débat de ce jour. Je pense que le problème de la pauvreté dans ce pays est vraiment une conséquence de cette gestion que tout le monde décrit. Hein. Et cette politique de la paupérisation qui est pratiquée par le régime suffirait au pouvoir, c'est ça qui nous amène à cette pauvreté. Et les solutions ne passent que par l'alternance, comme nous l'avions toujours dit. Et nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui lorsqu'on nous parle des statistiques de PNUD. Et heureusement que dans nos recherches, nous avions réalisé que le PNUD ne s'était pas lui-même, en tant que programme.
Alors, Maurice, vous pensez que le problème aujourd'hui pour renverser la tendance à la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas d'autre une voie qui est passée par l'alternance. Cela veut dire ceux qui sont au pouvoir quittent et les autres viennent, eux, ils peuvent mettre en place des mesures pour lutter contre la pauvreté.
C'est ça, en fait, c'est ça le problème, parce que le problème du Congo ne réside, nous avons toujours dit, Pierrot, dans cette émission, parce que ça, c'est pas la première fois que nous lançons un débat avec cette thématique. C'est-à-dire que tout ce que nous avions proposé, et ça fait, je crois, plus de 5 ans depuis que je participe à cette émission, je sais que nous avions à plusieurs fois revenu. Nous sommes revenus plutôt sur cette thématique. Nous avions proposé, ça fait plus de 5 ans, moi-même, que j'ai proposé des solutions, comment il fallait lutter, c'est par rapport à la bonne gouvernance, parce que les problèmes de ces pays se reposent au niveau de la bonne gouvernance, au niveau de la redistribution en fait des richesses. C'est là les grands problèmes. Alors, nous avions donné des propositions et personne ne nous a écoutés. Alors, à l'heure actuelle, à trois mois de la fin
de rien en fait du régime ici, nous ne pouvons que encourager l'alternance au pouvoir.
Et pour vous, c'est la seule solution. Voilà. Il y a que l'alternance au pouvoir. Mais rappelons quand même que 56 ans après, on continue toujours à se plaindre de la pauvreté. Cela veut dire qu'il y a eu quand même des changements. Des personnes sont parties, les autres sont revenus. Mais les pistes de solutions ont été plusieurs dans cette émission. Les auditeurs, la population, Ricardo Kanyama, nous revenons à vous. Il y a le problème qui est ce que nous disait tout à l'heure notre ami, qu'il faut. Notre ami Alain a insisté sur le changement, les comportements, notre façon de concevoir, et que ce soit du côté de l'homme politique, que ce soit du côté de la population. On vous écoute pour chuter par là. Y a-t-il des initiatives aujourd'hui qui peuvent aider la population à y arriver?
Oui, oui, absolument, il y a des initiatives. Par exemple, notre cas, moi je veux que notre jeunesse ne connaît vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté. Ils n'ont pas les plans pour sortir de la pauvreté de façon graduelle.
Mm-hmm.
Et actuellement, c'est d'ailleurs pour cela que je suis en République démocratique du Congo.
C'est pour les rappelons quand même que vous animez un centre de formation de coaching.
Oui. Oui, nous avons lancé les premiers centres de coaching financés. Au lieu que les gens discutent seulement, les gens peuvent venir apprendre quelles sont les possibilités qu'ils ont de créer des richesses, même lorsque l'État ne fait pas sa part.
Mm-hmm.
Parce que je trouve que lorsque vous êtes pauvre, vous pouvez parler comment l'État n'écoutera jamais votre voix. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous d'abord devenir riche, et comment vous pouvez, comme ça, vous pouvez bien changer la situation d'autres personnes. Donc, nous avons dans l'International Success Training Center, qui est le premier centre de coaching financé, où nous discutons ce genre de problématique et où nous disons aux gens
qui accueillent ça. Rapidement, on peut avoir l'adresse, le contact téléphonique, tout possible.
Oui, nous sommes sur 44 Avenue de la Justice, à côté du Collège Boboto. Et notre contact téléphonique, c'est le 085-88-92-563. Je répète, 085-88-92-563.
C'est est-ce qu'il y a des livres, des documents qui peuvent permettre aux gens d'entrer en contact, de comprendre un peu les mécanismes de la lutte contre la pauvreté, sans avoir espéré que l'État puisse faire quelque chose?
Absolument. J'ai écrit des documents pour détruire un peu la culture des pauvretés et aussi pour apprendre à la population l'éducation financière.
Mm-hmm.
Par exemple, il y a un livre que j'ai écrit, La chair de ma mère, qui apprend aux gens comment moi j'ai commencé à économiser 15 dollars jusqu'à devenir un homme d'affaires. Et aussi comment les gens doivent savoir que notre comportement sur l'argent est très important. Nous avons trois autres livres, 45 les secrets du succès et Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel. Ces livres permettent donc à la population de comprendre par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sortir de la pauvreté.
Merci beaucoup Ricardo Kanyama. Rappelons quand même que les gens peuvent vous joindre au 085-88-92-563 pour voir comment soi-même on peut se battre pour lutter contre la pauvreté aussi longtemps que nous allons attendre l'État. Merci à toute l'équipe des productions. Vous avez été nombreux. Paul Badianyama était à la mise en onde. Julie Pays à la réalisation. Pierrot et la Mélie vous a présenté ce magazine. On se retrouve demain pour un autre numéro. Mais l'émission, c'est sur www.radiotapi.net. Au revoir. Thank you.